Et je me suis remis dedans et du coup maintenant j'ai plus de plaisir à mixer en vinyle que sur CDJ et tout.
Tu te fournis par où?
Discogs, évidemment. Okay. J'ai eu des...
Des disquaires où tu vas?
Ouais, il y a eu des disquaires aussi un peu. Mais non, sinon c'est vraiment... Globalement c'est sur internet.
Ok.
Sauf si je tombe sur une petite pépite dans une brocante ou quelque chose comme ça. Mais...
Très bien. Eh bien, c'était l'émission du Saint-Disque sur Radio Campus Orléans. Et place à l'émission suivante. Que se passe-t-il ici au juste? Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres de toutes les disciplines sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues des de interviews créateurs longues de fiction sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire. Karl, qui est Gaïa? Est-ce une proposition scientifique ou un nouveau rapport spirituel, philosophique et politique à la nature? Gaïa est la divinité grecque qui a surgi après Chaos pour engendrer le monde. Mais c'est aussi le nom que James Lovelock, chimiste et ingénieur anglais, et Lynn Margulis, microbiologiste américaine, ont donné dans les années 1970 à l'hypothèse d'une régulation de l'habilité de la Terre par les êtres vivants. Nous allons écouter en première interview Sébastien Dutreuil, chargé de recherche au CNRS en histoire et philosophie des sciences, avec sa thèse qui est enfin publiée aux Empêcheurs de penser en rond, La Découverte, ce grand livre Gaïa, Terre vivante, histoire d'une nouvelle conception de la Terre. Nous continuerons l'émission et nous la finirons ainsi avec un anthropologue, Jean-Louis Tornatore, qui a sorti aux éditions Dehors, aux très belles éditions Dehors, « Pas de transition sans trans, essai d'écologie politique des savoirs ». Il interroge la possibilité d'un monde attentionné, un monde où la trans porte entre le visible et l'invisible et prend également une valeur métaphorique. Est-il possible que l'Occident entre en transe? Belle question, Karl, et nous allons écouter quelque chose qui nous met en transe, une belle fanfare que nous pourrons écouter à Ball pour Boulder.
Tout à fait. Rendez-vous le 19 mai pour aller voir Meute au festival Boulder. Voilà, donc on est super content qu'il passe dans la région. Après, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est un peu cher, effectivement, mais... 38 € pour voir un groupe mythique, voilà.
Dans un beau lieu.
Dans un beau lieu.
Boulder est un très 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 beau lieu.
Un festival qui a largement fait ses preuves. Moi, ça fait, je sais pas, peut-être 3 décennies presque que j'y vais.
c'est quand même. Et là, c'est meute. C'est
meute. Là, c'est meute.
C'est meute. Allons-y en meute.
Donc vous verrez pas une configuration, je pense, où ils vont jouer au milieu des gens, comme on le voit dans les vidéos sur YouTube. C'est plus une configuration live sur scène. Moi, j'ai eu la chance de les voir à Terre du Son il y a 3 ans, je crois, ou 4, et c'était juste terrible, quoi. Le son du sous-saphone, sous-bassophone, je sais pas, tape vraiment. On a l'impression d'avoir une percussion techno tout le temps avec ses cuivres. Non, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc, si vous connaissez pas encore Meute, on va vous en passer un petit morceau, et puis après, l'interview de Sébastien Dutreuil.
C'est l'émission du fictionnaire, Radio Campus Orléans.
de Sébastien Dutreuil aux éditions La Découverte. Nous parlons de votre livre Gaïa, Terre vivante, histoire d'une nouvelle conception de la Terre qui vient de paraître dans l'excellente collection Les Empêcheurs de penser en rond. Ce livre est la vulgarisation, le fruit de votre thèse obtenue en 2016 qui s'appelait Gaïa, hypothèse, programme de recherche pour le système Terre ou philosophe de la nature, ou philosophie de la nature. Votre livre, Sébastien Dutreuil, est l'histoire d'une nouvelle conception de la Terre. Il permet d'avoir les idées claires sur ce moment historique en étudiant au plus près les archives et en interrogeant les différents acteurs. Vous avez identifié un manque dans les recherches historiques sur les sciences. Celles portant sur les sciences de la Terre étaient insuffisantes. Et Gaïa était un angle mort. Votre thèse a-t-elle été élaborée pour combler ce manque et cet angle mort ?
Alors, je dirais que, d'un point de vue historique, c'est pas comme ça que je l'ai conçu. En fait, je suis plus parti de Gaïa et je me suis rendu compte a posteriori de certaines impasses dans l'histoire et la philosophie des sciences. Mais en fait, j'ai rencontré Gaïa avant de connaître l'histoire des sciences. J'ai découvert cette idée quand j'étais adolescent. Elle m'était restée dans la tête depuis. Elle a un peu guidé mon parcours de recherche aussi, de formation en sciences de la Terre, puis d'orientation en histoire et en philosophie des sciences. Et c'est seulement longtemps après que j'ai été amené à analyser et comprendre les enjeux de l'histoire et de la philosophie des sciences.
Donc la première question nouvelle que vous posez, Gaïa était-elle destinée aux biologistes de l'évolution?
Alors, effectivement, quand on présente Gaïa, le récit standard qui a dominé depuis plusieurs décennies, et qui a d'ailleurs été mis en avant par les partisans de Gaïa eux-mêmes, c'est que s'il y a une controverse avec des scientifiques, alors cette controverse a lieu avec les biologistes de l'évolution. Cette idée-là remonte en fait à la publication de deux critiques en 80 et 82 par Richard Dawkins et Ford Doolittle, donc deux biologistes. Doolittle fait une recension du livre de Lovelock qui vient de paraître en 79 et Dawkins consacre quelques pages à Gaïa dans le phénotype étendu. Ces deux critiques s'accordent premièrement sur l'idée que Gaïa semble être incompatible avec la théorie de la sélection naturelle. Et deuxièmement, ils relisent Gaïa comme une forme d'altruisme planétaire où l'ensemble des êtres vivants sont là pour s'aider les uns les autres et participer à l'élaboration d'un bien commun. Donc ils y voient un problème théorique en fait, qui leur appartient depuis au moins Darwin, qui est celui de l'explication de l'altruisme en biologique. Et ils y voient une montée en généralité, puisque cet altruisme se situe non pas au niveau d'une ruche ou d'une termitière, mais se situe à une échelle globale. Donc ils font une interprétation particulière de Gaïa et ensuite dérivent certaines critiques de ça. Lovelock et les partisans de Gaïa ont ensuite essayé de répondre à ces critiques et il y a eu deux héritages de ces critiques. D'un côté, les Gaïens, donc Lovelock et ses héritiers, ont élaboré un modèle théorique et ont proposé de nombreux articles pour essayer de répondre à ces critiques. Et de l'autre, en fait, ce qu'on constate, c'est que les biologistes de l'évolution se sont entièrement désintéressés du sujet. En fait, on dit qu'il y a eu une controverse entre les Gaïens et les biologistes de l'évolution, mais pour qu'il y ait une controverse, ça c'est toute l'histoire de l'étude des controverses qui s'est mise en place en fait, à la même époque, dans les années 80, dans le sillage de Latour et des historiens des sciences, ils ont bien montré que pour qu'il y ait une controverse, il faut qu'il y ait deux camps ou deux parties qui sont également intéressées à la controverse, c'est-à-dire qui viennent discuter de l'idée, la critiquer, qui participent à des conférences, écrivent des livres, des articles, etc. Bref, qui sont intéressés pour débattre l'idée. En fait, si on regarde les critiques qui sont mentionnées depuis une quarantaine d'années, c'est systématiquement les mêmes. Ce sont ces deux textes de quelques pages du début des années 80. Et en fait, si on regarde l'ensemble des revues de la biologie de l'évolution, Gaïa n'est cité que de manière extrêmement résiduelle au cours de plusieurs décennies. Donc il n'y a pas eu de réelle controverse avec la biologie de l'évolution. Et il y a de bonnes raisons à ça, c'est que les enjeux scientifiques, les questions scientifiques et les objets sur lesquels portait initialement Gaïa sont étranger à ceux de la biologie d'évolution. Ce qui intéresse les biologistes de l'évolution, c'est d'expliquer la biodiversité d'un côté et les adaptations internes des organismes de l'autre. Ce qui est l'énigme ou le problème scientifique de Gaïa était d'expliquer l'habitabilité de la Terre et l'évolution de ces variables physico-chimiques comme la composition d'atmosphère, le climat, la composition des océans, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes questions scientifiques, c'est pas non plus le même cadre théorique d'analyse. Les biologistes de l'évolution, pour expliquer des phénomènes d'adaptation, font appel à la sélection naturelle. Lovelock fait lui appel à la cybernétique. Donc on est sur des mondes en fait relativement étrangers qui n'auraient d'une certaine manière jamais dû se croiser. Donc après il y a des raisons pour lesquelles ce débat a été monté en épingle et on a mis en avant cette controverse. On pourrait y revenir éventuellement un peu plus tard.
Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur la définition de Gaïa. Vous écrivez qu'entre 1972 et 1974, la définition de Gaïa comme entité change. On passe de l'ensemble des vivants, la biosphère, la vie, donc c'est là où ça aurait pu intéresser les biologistes, au système composé des vivants et de l'environnement avec laquelle ils interagissent. La définition s'est beaucoup plus élargie en quelques années.
Alors oui, il y a un flottement initial dans la définition de l'entité, mais ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que justement Gaïa, initialement, ce n'est pas tellement la proposition d'une hypothèse qu'il s'agit de tester avec les faits, mais la présentation aux scientifiques d'une nouvelle entité dont on n'avait pas reconnu l'existence et dont il s'agit d'étudier les propriétés. Et donc oui, il y a ce flottement. Au début, on ne sait pas trop si Gaïa désigne simplement l'ensemble des vivants sur Terre, existant actuellement ou ayant existé depuis le début de l'origine de la vie, ou si ça désigne, et en fait ce sera plutôt ça qui va être retenu, ce qui a parfois été appelé l'écosystème global, soit en gros l'ensemble des vivants et l'environnement abiotique avec lequel ils interagissent. Et on voit bien là que dans cette définition, les frontières de Gaïa dépendent de l'échelle temporelle à laquelle on la regarde, en fait. Si vous regardez Gaïa sur une échelle de temps courte, les interactions entre les vivants et leur environnement vont s'arrêter assez proche des membranes des cellules ou des épidermes des organismes, etc. Si on la regarde sur une échelle de temps beaucoup plus longue, on va s'enfoncer en profondeur dans la croûte terrestre.
Alors vous écrivez que Gaïa est donc une contribution aux sciences de la Terre et qu'il y a bien eu une réception scientifique de Gaïa. Contrairement à ce que l'on pense, il en se focalise uniquement sur la biologie de l'évolution. Et donc cette réception, elle est du côté des sciences de la Terre.
Alors effectivement, en fait, les biologistes de l'évolution ont donné naissance donc, à ce récit standard suivant lequel s'il y a une controverse, elle a lieu avec eux. Mais en fait, de Gaïa, il ne reste rien d'intéressant scientifiquement, sitôt qu'on a reconnu ces incompatibilités théoriques avec la sélection naturelle. Et dans le sillage de ces critiques, Gaïa a été caricaturée comme une forme de pseudo-science n'ayant intéressé que quelques mouvements New Age marginaux. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots principaux qui ont été retenus dans le sillage des années 80. Et en fait, je disais tout à l'heure qu'il est curieux que Gaïa ait été retenu comme engendrant une controverse avec les biologistes de l'évolution, parce que si on regarde à qui s'adressent Lovelock et Margulis dans les années 70, c'est-à-dire les revues dans lesquelles ils publient, qui constituent la forme principale d'adresse, en fait, ils s'adressent aux sciences de la Terre, donc aux géochimistes, aux climatologues et aux sciences de la Terre et des planètes. Et alors, la réception aux sciences de la Terre est intéressante parce qu'elle a vraiment deux composantes très différentes. D'un côté, on a ce que j'ai appelé une petite littérature scientifique. Donc, en fait, si vous entrez le mot Gaïa dans un moteur de recherche pour trouver les articles scientifiques qui ont été publiés, vous allez tomber, donc bien, il y a bien une réception scientifique de Gaïa qui paraît dans des revues importantes, y compris dans Nature ou dans Science. Et cette littérature est entretenue au fur et à mesure des années, et on fait évoluer des débats et des questions théoriques internes à Gaïa, etc. Donc il y a bien une réception scientifique, elle est plutôt le fait des sciences de la Terre. Un des faits notables qui me semble intéressant, c'est par exemple le fait qu'un climatologue aussi renommé que Stefan Schneider, qui est un des personnages importants de la climatologie, qui contribue à sortir la question climatique depuis les arènes scientifiques vers le débat public et politique dans les années 70-80, fondateur de la revue structurant le domaine Climatic Change, Stefan Schneider consacre du temps et de l'énergie à organiser des grandes conférences internationales à laquelle vont participer de nombreux scientifiques. Euh, il, il, il consacre du temps et de l'énergie à ménager des espaces de discussion dans ses revues. Et ça montre, si vous voulez, il y a un contraste entre l'énergie qui est déployée en sciences de la Terre ou en climatologie et en biologie de l'évolution. Néanmoins, les personnes qui acceptent de discuter explicitement de Gaïa et de mentionner explicitement le label sont extrêmement peu nombreuses, si bien qu'à la fin, au bout de plusieurs décennies, vous avez une littérature scientifique qui est extrêmement réduite, environ 200 articles scientifiques, plusieurs livres. C'est beaucoup si on pensait que Gaïa était de la pseudoscience, mais c'est très peu si on compare ça aux annonces, si vous voulez, de révolution scientifique un peu grandiloquente que Lovelock a fait de l'hypothèse Gaïa. Un autre élément pour bien souligner la petitesse de cette littérature, c'est qu'elle est entretenue par une dizaine ou une vingtaine de scientifiques, certains extrêmement renommés, c'est pas là la question, mais du coup extrêmement peu nombreux, et quasiment la moitié d'entre eux sont situés en Angleterre, et un pourcentage encore important sont dans le même laboratoire. Donc il y a d'un côté cette petite littérature, et de l'autre, si on est familier des sciences de la Terre, on se rend compte que Gaïa, même quand elle n'est pas nommée, semble avoir eu une influence sourde, silencieuse, mais néanmoins assez profonde sur les savoirs. L'exemple qui me semble le plus frappant est celui de la manière dont le climatologue allemand Hans-Joachim Schellnhuber va défendre et justifier l'idée de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés. C'est un des climatologues les plus influents au monde. Il est fondateur de l'Institut de recherche en Allemagne sur le changement climatique, conseiller du Vatican, conseiller d'Angela Merkel, des Nations Unies, etc. Et Schellnhuber va dire 2 degrés, ça peut nous sembler très peu si on compare la température à l'intérieur de cette pièce et à l'extérieur de cette pièce. Mais si on compare le fonctionnement de la Terre à celui d'un organisme et cette augmentation de température à celle d'une fièvre, alors 2 degrés, ça devient énorme parce qu'une toute petite augmentation de température va pouvoir déstabiliser certains organes de la planète, certains grands ensembles qui ont été ensuite appelés les tipping elements, et de proche en proche mener à des transitions abruptes ou des catastrophes d'échelle globale. Et donc cette comparaison de la Terre à un organisme, Schellnhuber, si on retrace sa trajectoire biographique, en fait il l'emprunte directement à Gaïa et à Lovelock, dont il était un admirateur dans les années 90. C'est simplement un élément, un symptôme du fait que Gaïa semble avoir influencé les sciences de la Terre, même si le nom n'est pas prononcé. Et on pourra y revenir, je pense, dans la suite de l'entretien, mais Gaïa a effectivement contribué à un ensemble beaucoup plus vaste que la petite littérature que je mentionnais, qui est la constitution des sciences du système Terre, qui sont ces disciplines qui émergent dans le sillage des années 80 et au sein desquelles va être élaboré le concept d'anthropocène.
J'aimerais qu'on s'attarde encore à nouveau sur cet élément de votre thèse, parce que vous faites un retournement, en fait. On considérait que la réception de Gaïa était par les biologistes, et en fait, elle ne l'est pas. Et ça, c'est quand même un des grands apports de votre thèse. Je vais vous lire longuement, Sébastien Dutreuil, afin de bien faire comprendre. « Si j'accorde ici plus d'attention à la réception de Gaïa dans les sciences de la Terre et la philosophie de la nature qu'en biologie de l'évolution, ce n'est donc pas par manque d'intérêt pour cette discipline ni par incompréhension de ses cadres, j'ai fait le même effort que les Gaïens, j'ai même commencé par là, puisque c'est cette piste qu'indiquait le récit standard. Ni même parce qu'il n'y a pas eu de réception. C'est justement pour m'être perdu dans des impasses où conduisait le récit des biologistes que j'ai dû faire demi-tour et changer de piste. Changeons donc de point de vue et de focale et voyons la théorie gaïenne et Daisy World, on en parlera plus tard de Daisy World, non pas comme une contribution à une controverse biologique, mais du point de vue des sciences de la Terre, comme une théorie constituant l'habitabilité de l'environnement global comme problème nouveau. » C'est donc tout ce que vous venez d'exposer. Mais ce passage-là, dans votre livre, nous permet bien de comprendre que votre thèse a permis cette nouvelle considération à propos de Gaïa. Et vous en venez donc à une autre épistémologie pour Gaïa, puisque votre livre, votre thèse, c'est tout un travail historique de philosophie des sciences également, mais aussi c'est de l'épistémologie. Vous en venez à cette autre épistémologie pour Gaïa, une théorie de l'habitabilité de l'environnement global pour les sciences du système Terre. Et donc, vous avez cette phrase, « Gaïa n'est pas une grande hypothèse que l'on teste, mais un cadre théorique pour comprendre les phénomènes de régulation globale. » Et cela, ça change tout.
Alors, plusieurs aspects. Je vais peut-être revenir une dernière fois sur la controverse avec les biologistes et ensuite détailler un peu ce contraste entre hypothèse et théorie. Alors, effectivement, j'ai commencé ma thèse en lisant l'histoire et la philosophie de la biologie spécialisée sur les questions de théorie de l'évolution. J'étais encadré d'ailleurs par deux grands philosophes de la biologie, Jean Gaillon et Philippe Hudman, qui sont tous les deux spécialistes du darwinisme et de la biologie de l'évolution contemporaine. Et donc j'ai travaillé dans ce cadre-là, essayé de répondre aussi, moi aussi aux critiques de Dawkins et de Doolittle, de voir comment Gaïa et la sélection naturelle pouvaient éventuellement être réconciliées. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte que en fait, ça menait à pas grand-chose. D'un point de vue théorique, et en fait les maigres avancées qu'on pouvait faire n'intéressaient à peu près personne, faute d'une communauté susceptible de s'intéresser à ces questions-là. Et donc ça, c'est sur le premier aspect. Le deuxième, sur le contraste que vous citez entre hypothèse et théorie à la fin, celui-là, il vient justement. Il vient de la manière dont les problèmes ont été posés à l'intérieur de la petite littérature scientifique que je mentionnais, au sein de cette petite littérature scientifique qui a été entretenue essentiellement par des sciences de la Terre. Il y a des critiques de Gaïa qui ont émergé, donc cette littérature n'est pas seulement le fait d'enthousiastes, mais de sciences de scientifiques de la Terre qui ont pris le temps de lire en détail, et bien plus en détail que Dawkins ne l'a fait lui-même. Donc de lire en détail Gaïa et d'essayer d'en formuler des critiques. Et une des critiques particulièrement influente au sein de cette littérature, elle a été formulée par James Kirchner, qui est un géomorphologue avec une formation en philosophie des sciences, qui, à la fin des années 80, va proposer une analyse très détaillée de Gaïa en disant, bah voilà, si on regarde ce que Lovelock et Margulis ont appelé Gaïa, en fait, on trouve des propositions assez différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, comme scientifique influencé par Popper, c'est de savoir si ces propositions sont des hypothèses testables. Et en fait, quand je regarde en détail, je vois soit des hypothèses qui sont testables par les faits, mais qui semblent connues de longue date, comme simplement l'idée que la vie influence son environnement, soit des propositions qui ne sont pas testables parce qu'elles sont mal définies, soit parce que ce sont des métaphores, la comparaison de Gaïa à un organisme, soit parce que certains termes sont particulièrement mal définis ou ambigus, comme l'idée que la vie optimiserait son environnement avec un flou sur ce que c'est qu'un environnement optimum. Et donc, à la fin de l'analyse, il reste, pour Kirchner, il reste qu'une seule hypothèse, qui est une seule formulation de l'hypothèse qui semblerait testable, c'est l'idée que la vie stabilise son environnement. Mais pour lui, cette variante de l'hypothèse a l'air d'être réfutée par les faits de biogéochimie et de climatologie. Et dans le sillage de cette analyse de Kirchner, il y a un style qui a été instauré à l'intérieur de cette petite littérature, qui a consisté à essayer de clarifier au maximum l'hypothèse. Donc on a essayé de clarifier chacun des termes dans toute une série de directions, et ensuite de confronter systématiquement cette hypothèse très générale, l'idée que la vie en général régulerait l'environnement global pour son propre bénéfice. On a essayé de chercher à confronter cette idée systématiquement aux faits d'histoire de la Terre, de biogéochimie, de climatologie, etc. Et en fait, si on regarde un peu plus en détail encore, on se rend compte que cette attitude qui consiste à recentrer toute l'attention sur le test de Gaïa comme une hypothèse avec les faits, et surtout le fait de critique. Donc trois personnes, James Kirchner, Peter Ward et Toby Tyrrell, les deux derniers dans des livres entiers consacrés à des réfutations empiriques de Gaïa. Et quelque chose qui m'a frappé, et je pense qu'il va me permettre de faire la bascule avec l'idée que Gaïa en fait n'est pas une hypothèse, c'est l'attitude de Tyrrell qui dit, en 2013, voilà, Lovelock et Margulis nous ont proposé une hypothèse. Il y a 40 ans, on n'avait pas les faits pour la tester. Maintenant, on sait, on a accumulé plein de connaissances en climatologie, en biogéochimie. On peut enfin savoir si Gaïa est vraie ou fausse. Et à la fin de l'analyse, Tyrrell réfute Gaïa. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si on revient au texte de Lovelock et Margulis des années 70 et 80, l'intégralité quasiment des faits discutés par Tyrrell sont analysés par Lovelock et Margulis. Ils sont discutés, mentionnés, c'est-à-dire tous les faits qui montrent des épisodes d'histoire de la Terre au sein desquels la vie déstabiliserait son environnement ou aurait un effet délétère sur son environnement. Et le fait que Lovelock et Margulis aient conscience de ces événements-là, même s'ils ne les mettent pas spécifiquement en avant, invite à s'interroger sur la question de savoir si Lovelock et Margulis concevaient eux-mêmes leur proposition comme une hypothèse. Et en fait, je pense qu'ils ont appelé ça hypothèse par peut-être habitude scientifique, l'idée que les scientifiques ne font rien d'autre que proposer des hypothèses. Mais en fait, en pratique, ils ne l'ont pas considéré comme tel. Ils n'ont pas abordé Gaïa comme une hypothèse qu'on va rejeter sitôt qu'on a un contre-exemple qui la réfute. En pratique, ce qu'était Gaïa pour Lovelock et Margulis, c'était une nouvelle entité, donc cette entité dont il s'agit de nouvelles propriétés, et donc qui allait lancer un nouveau programme de recherche, de nouvelles questions scientifiques, avec de nouvelles méthodes, etc.
Alors, pour votre enquête historique, Sébastien Dutreuil, James Lovelock était essentiel à approcher minutieusement afin de mieux le comprendre personnellement. Pour aborder James Lovelock, il faut sans doute parler de son invention, celle qui lui a donné un grand succès, cet appareil de mesure de Lovelock, le CD, qui est un détecteur à capture d'électrons.
Alors effectivement, la place de Lovelock est intéressante, et elle est intéressante à deux titres, à plusieurs titres. La raison principale est que on est, à cause du récit standard qui fait de Gaïa une sorte de controverse ratée avec les biologistes de l'évolution qui n'auraient intéressé que quelques mouvements New Age marginaux, on a une image un peu faussée de Lovelock. On ne sait pas très bien quel est son statut de scientifique. Est-ce que c'est un biologiste? Est-ce que c'est quelqu'un de marginal, etc. Il y a un deuxième aspect qui brouille les pistes sur qui est Lovelock, c'est le récit de Lovelock lui-même. Le récit que Lovelock... C'est-à-dire qu'on a deux récits principaux de Gaïa. Le premier, c'est celui des biologistes, ce qu'on a appelé le récit standard. Et le deuxième, c'est le récit que Lovelock propose lui-même. Quand on lui demande de raconter l'origine de Gaïa, il raconte systématiquement les mêmes éléments. Donc, au début des années 60, il va s'installer avec un nouveau statut, ce qu'il appelle celui de scientifique indépendant. Et ce statut de scientifique indépendant, pour lui, revêt deux aspects. Premièrement, des travaux de consultance, notamment pour la NASA, où il est invité à travailler au début des années 60. Et de l'autre, une sorte de retrait du monde à la campagne, où il se représente comme une sorte de scientifique amateur et romantique, avec la figure du scientifique amateur du 19e siècle comme idéal à suivre. Et donc Lovelock recommande à qui voudrait suivre son exemple de s'installer le plus loin possible des villes et des aéroports pour ne pas être importuné. Il raconte qu'il construit son laboratoire dans sa maison de la campagne du sud-ouest de l'Angleterre, et qui mène ses recherches depuis cet endroit. Et en fait, il s'installe dans la campagne du sud-ouest de l'Angleterre après son passage à la NASA. Et ce qu'il retient de son passage à la NASA, c'est la recherche de vie sur d'autres planètes. Et pour lui, c'est une recherche d'un critère de vie sur d'autres planètes qui aurait mené à l'hypothèse Gaïa, parce qu'en s'interrogeant sur la manière dont on va pouvoir trouver de la vie sur d'autres planètes, Lovelock est amené à regarder comment on pourrait la détecter sur Terre et à constater que l'atmosphère terrestre est en déséquilibre thermodynamique. Et ce déséquilibre thermodynamique, dont l'exemple le plus frappant est la coexistence de méthane et d'oxygène, est en permanence maintenu et créé par l'activité des vivants. Et donc Lovelock retient de ce passage à la NASA le fait que la vie a une influence massive sur son environnement géologique. Est-ce que je poursuis un petit peu sur le... Okay. Donc le récit à la fin qu'on a de Gaïa par Lovelock est celui d'une sorte de réflexion abstraite et spéculative sur la vie, la terre et la nature, qui emprunte des réflexions un peu philosophiques sur ce que c'est que la vie comme on la détecte depuis la NASA, et qui est ensuite nourrie par une recherche isolée et solitaire au fond de la campagne du sud-ouest de l'Angleterre. En réalité, si on regarde en détail les activités quotidiennes et la vie de Lovelock dans les années 60 et 70, on a une image extrêmement différente de celle que Lovelock dépeint de lui-même. Et on va constater notamment que cette recherche de la vie est qu'une activité extrêmement épisodique et tout à fait marginale dans l'élaboration de Gaïa. Si on s'intéresse maintenant un peu plus en détail au statut de Lovelock, donc il se présente comme un scientifique indépendant pour des raisons sur lesquelles on reviendra un peu plus loin dans l'entretien. Mais la catégorie qui lui correspondrait le mieux est celle de scientifique entrepreneur. Alors c'est une catégorie d'histoire des sciences qui est travaillée par les historiens des sciences, notamment dans un livre intéressant de Stephen Chapin qui revient sur ce que c'est que d'être un savant à différentes époques. Ça va donc savants dont la vocation est inspirée par Dieu au XVIe et au XVIIe siècle, aux fonctionnaires employés d'un État et participant à une entreprise collective au XXe siècle, en passant par la figure de l'amateur au XIXe. Et il y a une catégorie importante qui émerge dans son livre, qui est celle de scientifiques entrepreneurs, qui émerge dans, disons, dans la Silicon Valley des années 60 et 70, dont la caractéristique de ces scientifiques entrepreneurs est d'avoir à la fois un pied dans la production de savoir universitaire et un pied dans le monde privé et la production d'argent. Et l'exemple typique de scientifiques entrepreneurs, ce sont ces créateurs de start-up de biotech. Alors, pourquoi le statut de Lovelock correspond à celui de scientifique entrepreneur? Alors, il faut revenir un peu plus en détail sur sa carrière et sa manière de travailler. Donc, il a initialement une formation en chimie, donc pas du tout en biologie ni en sciences de la Terre. Et il a très tôt des talents d'ingénieur ou d'inventeur d'instruments. Il va travailler entre 1940 et 1960 comme ingénieur et chimiste dans le domaine biomédical. Donc il travaille sur toute une série de questions, la coagulation sanguine, la transmission des infections respiratoires comme le rhume. Il a des travaux pionniers en cryobiologie, donc l'effet du froid sur les tissus vivants. Il va congeler des cellules sanguines, des spermatozoïdes, des hamsters vivants qu'il va essayer ensuite de ressusciter. Donc toute une série de travaux dans le domaine, disons, de la biochimie médicale. Et parmi ses nombreuses inventions, l'invention pour laquelle il est la plus célèbre et que vous mentionniez dans votre question est le détecteur à capture d'électrons, qui est en soi une révolution très importante dans le domaine de la chimie. Lovelock est étudié par les historiens de la chimie parce que son invention permet un saut de 3 ordres de grandeur, donc multiplie par 1000 le seuil de détection des composés chimiques à l'époque.
L'émission du Fictionnaire, l'interview dure 1h30, vous la retrouverez sur le site de l'émission du Fictionnaire pour continuer Gaïa, Terre vivante, cette histoire d'une nouvelle conception de la Terre. Nous continuons cette émission, deuxième partie, avec l'anthropologue Jean-Louis Tournatore pour parler de son livre « Pas de transition sans trans », et ça quand même, ça claque, un essai d'écologie politique des savoirs. Mais avant, Karl, une pause avec un compositeur de la seconde moitié du XXe siècle.
Eh ben non, j'ai changé de programme.
Mais quelle surprise.
Ouais, c'est ça. Désolé, non, j'avais oublié que je voulais vous passer un truc avant. On va finir avec François Bayle l'émission. Je voulais vous parler d'une compilation, d'un coffret que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, il se trouve que j'ai été missionné avec mon collègue pour faire un mix. Si jamais vous allez à la Nuit des Musées, au MOB, samedi soir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose dans la ville. Hein. Promenez-vous, il y a souvent des belles propositions. Je crois que les Beaux-Arts vont faire quelque chose, certainement. Donc, renseignez-vous. Mais au MOB, au Musée d'Histoire Naturelle, vous aurez en fait un parcours musical avec des lampes torches qui sera proposé. Donc la bande son est faite par la médiathèque et elle est faite à partir de musiques qui se sont inspirées d'animaux. Donc il ne s'agissait pas de prendre des morceaux de musique et de mettre des bruits d'animaux par-dessus. Non, on prend des morceaux de musique où les bruits d'animaux sont présents. Quoi. Donc soit ils sont très associés, soit c'est derrière. Enfin, bon, vous verrez. Et comme la thématique de l'année pour la Nuit des Musées, c'est les cinq sens, il y aura aussi une petite entrée dans les sens. Donc un mix de 2 heures. Hop, on se promène avec une lampe torche pour profiter des collections du musée. Et puis un blind test par, alors je sais plus comment elles s'appellent, les deux filles, Agnès, c'est Strass et Payette, je crois. Un duo de blind testeuses orléanaises qui sont trop fortes. Et franchement, voilà, ça se passera au dernier étage du MOB, je ne sais pas à quelle heure, mais renseignez-vous, ça doit être indiqué. Donc voilà, une belle proposition musicale. Et j'ai découvert donc ce coffret qui s'appelle For the Birds pendant ces recherches. The Bird Song Project, qui est en fait un ensemble de 172 pièces de musique avec des gens qui ne font que parler, des acteurs de cinéma, des musiciens. On retrouve Beck, on retrouve Nick Cave, on retrouve une quantité de gens très connus, puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Et ils ont tous utilisé en fait des bruits d'animaux pour composer en fait leurs morceaux. Donc on va écouter un morceau parmi ces 172. Il s'agit de Rudresh Mahantapa. Et je vous invite à faire les curieuses du côté de For the Birds. Voilà, ça existe dans une édition 20 LP qui est juste inaccessible. Mais sur Internet, on peut écouter tout ça. Allez, hop.
L'émission du Fictionnaire, oui. Radio Campus Orléans.
Mais oui.
Radio Campus.
Je suis en compagnie de l'anthropologue Jean-Louis Tornator. Nous parlons de votre livre « Pas de transition sans trans » qui est un essai d'écologie politique des savoirs. Ça vient de paraître il y a quelques mois aux éditions Dehors. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous présentiez vos activités d'anthropologue parce qu'on imagine que dans le titre même « Pas de transition sans trans », vous avez eu affaire au phénomène de trans.
Eh bien non, je n'ai pas eu affaire au phénomène de trans en tant qu'anthropologue. Ou alors, de manière directe, mais pas des trans que j'aurais observées. En fait, je suis un anthropologue de l'ici et pas un anthropologue de l'ailleurs. Et en enquêtant ici, j'ai surtout enquêté sur des phénomènes de patrimoine. Et en particulier, je me suis intéressé à la manière dont des personnes conservaient une mémoire d'une région industrielle en train de s'effondrer, en particulier la Lorraine. Donc ça a été des terrains d'enquête importants. Et même avant, j'avais travaillé sur, c'est d'ailleurs l'objet de ma thèse, sur l'exploitation du charbon dans les Alpes briançonnaises, dans les années, une thèse dans les années 90. Donc voilà, donc je suis, ça ce sont mes travaux de recherche essentiellement axés sur une anthropologie historique de phénomènes technico-industriels et puis ensuite des phénomènes de patrimonialisation, mémoire et patrimoine, essentiellement sur le patrimoine, qui a été l'essentiel de mon travail de recherche ces 20 dernières années jusqu'à ma retraite, puisque je suis actuellement professeur émérite depuis le mois de septembre.
Pouvez-vous nous parler de la trans, de la définition que vous faites de la trans, afin que nous partions déjà sur les bonnes bases pour votre livre?
Alors, la définition de la trans, telle que je la donne, pour moi, ce serait une manière d'agrandir le monde. On va sortir de la définition, on va dire, commune ou communément partagée de la trans. D'ailleurs, telle qu'elle pourrait être véhiculée, par exemple, par des films comme celui de Jean Rouch, Les Maîtres Fous, voilà, où on imagine, on voit des personnes en transe avec la bave aux lèvres. On va sortir un petit peu de cette représentation, l'image de la transe, pour essayer de considérer la transe en tant qu' état particulier qui permet de, en quelque sorte, d'agrandir le monde. Voilà, ça serait une définition minimale de la trans à laquelle je suis arrivé. Mais peut-être il faudrait que je vous dise le cheminement par lequel je suis arrivé à la trans. Puisque finalement, je ne suis pas un anthropologue de l'ailleurs, je n'ai pas observé des phénomènes de trans. En revanche, je suis un anthropologue et en tant qu'anthropologue, j'ai en quelque sorte eu l'expérience de la transe, puisque finalement on pourrait dire que les anthropologues seraient des spécialistes en eux-mêmes de la transe par le geste même de rencontre qu'ils sont censés déployer. Donc c'est une histoire que j'ai très peu racontée, que je raconte même pas dans le bouquin. Un jour, je faisais mes enquêtes dans le Briançonnais, donc j'étais à ma table de travail. J'avais loué un petit appartement et j'avais une vue sur la vallée. J'étais à 1600 mètres d'altitude et je réfléchissais sur les enquêtes que j'avais déjà faites, les personnes que j'avais déjà rencontrées. Et en regardant la vallée, à un moment, j'ai eu une expérience qu'on pourrait dire de dissociation ou de retournement, où j'ai eu l'impression de pouvoir me mettre à la place du système expérientiel des personnes que j'étais en train de rencontrer. Ça a duré très brièvement, une fraction de seconde peut-être, je ne sais plus. Mais ce souvenir m'est resté là, comme ça, cet événement est resté gravé. Et je l'ai mis dans un coin, en ne sachant pas que... D'ailleurs, sans me poser la question de savoir ce que je pouvais en faire, mais en étant persuadé que c'était là le fondement de la posture anthropologique, avec cette idée que finalement, s'il y a eu des événements, moments de dissociation, comment faire en sorte pour à la fois le retrouver, ce moment de dissociation, ou faire en sorte qu'il ne se dilue pas, qu'il ne s'effiloche pas dans un travail de rationalisation de la rencontre. Malheureusement, la posture anthropologique est une posture qui, en quelque sorte, lutte contre la folie de la rencontre de l'autre, puisqu'il s'agit bien évidemment de rentrer à la maison, de retourner dans son laboratoire, de se remettre à sa table de travail et de, en quelque sorte, de dompter tous les matériaux qu'il aurait eu à sa disposition.
Vous venez parler, Jean-Louis Tornatore, de posture anthropologique et vous cherchez notamment deux grandes voies, deux grandes échappées qui permettraient de se dégager des approches anthropologiques. J'aimerais que vous parliez tout d'abord de Bertrand L. et ensuite que vous parliez de Sylvia Mancini qui va s'appuyer sur les travaux bien connus de Ernesto De Martino. Pouvez-vous nous parler de ces deux approches? Et après, j'aurai une question sur Toby Nathan qui serait une troisième voie parallèle.
Alors là, vous me posez quasiment une colle, parce que en fait, je suis pas spécialiste ni de L ni de Sylvia Mancini que je connaissais il y a longtemps, ni de Toby Nathan. Ce sont des personnes que j'ai qualifiées comme étant permettant des échappées anthropologiques. C'est le deuxième chapitre sur des échappées anthropologiques. C'est en fait finalement des personnes qui l'espace problématique, ça c'est une phrase de Michel Desserteaux, un espace problématique d'une interrogation, c'est-à-dire l'interrogation elle est ouverte, elle n'est surtout pas fermée. Et il me semble que autant Bertrand L. que Sylvia Mancini que Toby Nathan ont laissé la porte ouverte à cette question d'une influence, c'est dominatant, ou d'un efficace, ça c'est Mancini, ou de la théâtralité, de la possession, ça c'est Bertrand L. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être chaque fois ramené à de la simulation, du théâtral, de l'inauthentique, etc. Mais en même temps, il y a une efficace, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une performativité de l'action qui laisse entendre que finalement on est en face de phénomènes qui ne peuvent pas être épuisés par une analyse rationalisante de type scientifique, objectiviste. C'est ça surtout ce qui mène. Alors des échappées anthropologiques, je suppose, ils ne sont pas les seuls à les faire. Il y en a quelques-uns, mais en même temps. Tout à l'heure, il y a aussi bien évidemment Stefanov, peut-être aussi, qui lui aussi, avec son approche de l'imagination, est aussi quelqu'un qui ouvre une porte, procure. La question est de savoir comment avoir des analyses qui ne ferment pas les portes à ce qui va se passer. à ce qui s'est passé. Voilà. Je pourrais les dire comme ça pour l'instant. Voilà, c'est...
Oui, parce que c'est cela qui va être le cœur de votre livre, Pas de transition sans trans, c'est d'utiliser ce terme, ce concept de trans et de modifier les termes et les concepts du débat au cœur de l'anthropologie. Vous avez parlé de votre expérience, il existe dans le temps du terrain un moment fondateur de basculement où l'on ressort transformé. Vous nous en avez parlé un tout petit peu. Bien des anthropologues des lointains vont raconter plus ou moins dans leur livre, peut-être pas dans leur livre académique, mais dans leur livre de leur ressenti, de leur terrain anthropologique, ce moment fondateur d'un basculement face à un autre, la figure de l'autre, qui est celle qui est la plus utilisée en anthropologie et celle aussi que vous, non pas contestée, mais vous allez jouer sur le concept de l'autre, du grand autre. Vous convoquez, et on pense bien sûr à Jeanne Favré-Saada, avec son terme « être affecté ». Et vous, à la place, vous proposez le terme de « trans », c'est ce que vous avez dit en introduction, « la trans est le lieu et le moyen » de la rencontre. J'aimerais que vous nous parliez d'un moment que vous allez étudier, qui sont les fêtes de carnaval à Pézenas, en France, dans le sud de Languedocien. C'est un carnaval que vous allez étudier et vous parlez du théâtre de la carriera qui est développé par Claude Alranque. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela ?
Alors, Théâtre de la Carrière, c'est une vieille histoire, ça, puisque c'était une troupe de théâtre qui s'est créée dans les années 70, à l'initiative, entre autres, de Claude Alranque, ils étaient plusieurs. Et c'est vrai que c'est un théâtre itinérant qui se déplace dans le sud de la France, de village en village, et qui propose des spectacles qui seraient en prise avec la réalité des personnes, des villageois et des paysans du lieu. En particulier, il y a tout un travail autour de la viticulture, etc. C'est un théâtre qui a été qualifié aussi par certains d'un théâtre ethnologique, puisqu'ils prélevaient leur matériau de théâtre dans la vie même des villages qu'ils traversaient. Il y avait d'ailleurs une certaine proximité avec le théâtre de Eugenio Barba, à la même époque. Après, il y a un bouquin qui est paru là-dessus qui s'appelle L'étranger qui danse. Aussi, il faisait des rencontres dans des villages de Sardaigne, par exemple. Il y avait une volonté, en quelque sorte, d'aller auprès du peuple, on va dire ça, entre guillemets, ou même peut-être pas entre guillemets d'ailleurs, auprès du peuple, pour essayer de en quelque sorte, de confronter, on pourrait le dire ça, on va le voir chez Claude Alranque, confronter le théâtre et en tant que c'est un rituel, au rituel qui pouvait exister dans les sociétés paysannes. Il y a en quelque sorte une confrontation de ritualité comme ça, et comment le théâtre pouvait se faire un écho par sa capacité, par sa dimension rituelle, comment il pouvait se faire l'écho aussi des problèmes, des questionnements qui avaient lieu dans les sociétés paysannes. Alors à Pézenas, on a fait une enquête en 2013 autour de qui était parce qu'il y avait précisément tout un travail qui était fait par trois jeunes femmes du théâtre des origines, dont Perrine Alranque, qui est la fille de Claude Alranque d'ailleurs, avec qui je travaille maintenant, qui ont fait un travail de revitalisation de rituels, le rituel de carnaval, le rituel de la Saint-Jean et le rituel la Festa del Morte en novembre. Un travail à la fois de consolidation et de revitalisation de ces rituels, puisqu'il y a quand même une tradition à Pézenas de carnaval avec autour d'une figure totémique, le poulain, comme ça, qui est sorti. C'est une sorte de grand mannequin qui est sorti chaque année. Donc il y avait déjà dans cette ville, comme il y en a dans pas mal de villes d'Europe, du Languedoc, mais aussi d'Europe, il y a des traditions carnavalesques qui sont restées extrêmement fortes, vivantes. Et donc, elles ont fait ce travail de consolidation et de revitalisation avec en proposant des spectacles de rue et des moments aussi de fêtes collectives qui pouvaient être considérés aussi comme des moments de transe collective. Voilà. Donc, avec donc, théâtralité, musique, sorte de. C'est les, je ne me souviens plus le nom du groupe, d'une musique assez répétitive, lente, qui aussi favorise l'entrée en transe. Donc, il y a des. À la fois, moi, j'ai trouvé intéressant parce que c'est une manière de considérer que la transe, c'est rien de, c'est pas un événement si extraordinaire que cela. C'est pas quelque chose pour revenir au maître fou. C'est pas l'écume et la bave aux lèvres. C'est des moments comme ça de particuliers qui sont générés par certains dispositifs théâtraux, musicaux et qui donnent lieu à des formes de gestuelles collectives.
Et là, on peut faire entrer cela en résonance, en correspondance avec la pratique du rituel par les écoféministes néo-païennes, dont Starhawk s'est fait la narratrice, notamment à des moments en France de Notre-Dame-des-Landes.
Oui, alors le rituel dans l'Europe contemporaine. Voilà, c'est ça, c'est la question du rituel, effectivement, puisque finalement, ça c'est un livre, un article que j'avais écrit, que j'avais lu, pardon, au tout début de mes études d'ethnologie à Aix-en-Provence. La revanche du rituel dans l'Europe contemporaine de Julian Pitt Rivers, qui racontait que finalement le rituel n'avait pas déserté la scène européenne, la scène moderne, puisqu'on retrouvait des formes, des structures ternaires du rituel telles qu'elles ont été établies par Arnold van Gennep dans le voyage aéronautique, enfin en avion. Donc il y a des phases de séparation, phases de latence et phases d'agrégation. Et, ou bien encore, on a aussi Lévi-Strauss qui montrait que, qui avait analysé la crémation, la pendaison, puis la crémation du Père Noël à Dijon en 1951, si je me souviens bien la date, et qui montrait que finalement, il y avait des résonances entre cet événement-là et des Saturnales romaines ou des rituels pueblos. Donc finalement, le rituel n'a pas déserté la scène moderne, hein, il est toujours présent, et on le voit assez présent aussi, pour moi, avec une dimension politique très forte chez les écoféministes telles qu'elles sont racontées par Starhawk dans son beau livre Révèle l'obscur, Femmes, magie et politique, dans lequel elle montre que des femmes se mettent en commun leur peur, leur commune peur du monde, c'est dans les années 80, c'est après l'incident de Three Mile Island, la peur du nucléaire, la peur de la guerre nucléaire, et donc elles vont se réunir, et évoquer leur peur et puis essayer de la résoudre, en tout cas de la vivre, parce qu'il faut précisément vivre la peur, mais en même temps la je ne sais pas si c'est le mot qui convient, la transcender politiquement dans un sentiment des rituels de magiques, hein, de cercles, de danse, etc., et des rituels qui permettent d'évoquer cette peur et d'en faire une arme politique. Voilà. Et perspective, on la retrouve aussi à Notre-Dame-des-Landes, lorsque, après l'évacuation d'une partie de la ZAD, enfin, après l'abandon, donc l'État, sans doute furieux d'avoir été obligé de lâcher du lest, se sont vengés en détruisant une partie des habitations, et donc il y a eu des moments très violents, je crois que c'était en 2018, si je me souviens, ou 2017, je ne sais plus la date. Et donc il raconte ce texte qui a été écrit, montre qu'ils ont eu des rituels qui ont conclu cette période assez violente, d'émotions stressantes comme ça. Donc comment faire face à ce traumatisme-là? Et le rituel est un moyen aussi à la fois de célébrer la cohésion de la communauté, ça c'est un classique, et en même temps de transformer la peur, la violence, le drame, et d'en faire une force politique.
Oui, et pour cela, vous convoquez l'anthropologue spécialiste des aborigènes, Barbara Glosowski, qui ramène de son expérience de Notre-Dame-des-Landes des expériences qu'elle a pu vivre de manière à peu près similaire en Australie auprès des populations aborigènes.
Oui, Barbara, et effectivement, c'est sa fille d'ailleurs, sa fille qui est aborigène, en fait, qui a fait le rituel à Notre-Dame-des-Landes. Oui, Barbara a écrit un livre important, « Réveiller les esprits de la Terre », dans lequel elle montre aussi à la fois toute l'étendue de ses terrains, à la fois en Australie, mais aussi la manière dont elle a essayé de croiser ces terrains australiens avec les terrains en Guyane, puis au Brésil, et comment aussi elle s'est impliquée à Notre-Dame-des-Landes, montrant qu'il y avait une communauté en quelque sorte, il pouvait y avoir une communauté politique, une communauté de lutte entre ces différents lieux comme ça autour de la question autochtone, avec un risque cependant, mais ça c'est moi qui l'ajoute, qu'il y ait une confusion entre le devenir autochtone et l'être autochtone, mais ça on en parlera peut-être plus tard.
Émission du Fictionnaire. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Sébastien Dutreuil et Jean-Louis Tornatore, nos deux interviewés, et Carl, ce dernier morceau, cette fois, de musique contemporaine de la deuxième moitié du XXe siècle.
C'est ça. Eh ben, c'est François Bayle, effectivement, qui s'y colle à nouveau. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on le passe souvent, c'est pénible. Mais voilà, qu'est-ce que c'est bien. Extrait d'un album alors qui n'a pas de nom mais qui doit dater de la fin des années 60 quand même. On va écouter une pièce intitulée Lignes et points qui date de 66. Elle a été créée en 66, interprétée par je crois que c'est monsieur.
Ah, seul. Tant mieux, très bien. Et bien tout ça, c'était l'émission du Fictionnaire. Radio Campus Orléans, juste après. T'en veux, c'est de la bonne, ça sera Jean-Marc aux commandes. Radio Campus.